France Culture.
Edimondo Simeoni, un militante permanente.
Edmond Simeoni, militant permanent. Un documentaire d'Antoine Guérimand et Félix Levaché.
Notre famille est originaire d'un endroit très central, très rural en Corse, qui s'appelle le Niolo et qui occupe une place, je crois, particulière dans l'inconscient collectif des Corses. Cette vallée se trouve au pied de la plus haute montagne de Corse, le Monte Ginto. C'est un endroit qui est un peu une source, un peu inaltérée. Nous sommes particulièrement originaires du village de Lotz, qui est un village qui a été fondé par des bergers, qui était donc ancré dans la tradition agro-pastorale corse. C'est une vie faite de joie simple, de travail autour de la vie agro-pastorale, de pêche, dans les eaux tumultueuses du Gaule. Qu'on a retenu, nous, en tant qu'enfants, c'est cette vie très proche de la nature et très proche des autres. Je dirais enserrée dans une gangue affective très, très dense.
C'est un enfant joyeux, d'abord, Edmond Simeoni. C'est un enfant qui aime jouer avec les autres, qui adore jouer au foot. Il a failli être footballeur, mais finalement, il ne le sera pas parce que son frère Max le tire par la manche à un moment donné. C'est un enfant très mature déjà, à qui on répète que pour faire quelque chose, en tout cas, il faut apprendre. Et l'école, c'est le lieu de tous ces apprentissages.
Son père était un petit notable local. Il avait été maire du village pendant un certain temps. C'est une famille que l'on classait à l'époque gaviniste. Alors, gaviniste, c'était une famille de droite. Son origine politique, au départ, elle vient de là. Il était plutôt à droite, il ne s'en cachait pas, il le disait. Hein. Il avait fait la guerre d'Algérie, il était plutôt même Algérie française au début.
Ensuite, mon père, qui est le cadet d'une famille de trois frères, se sont rendus à Bastia, où ils ont commencé leurs études au collège, en passant également par Francarde, qui est une espèce de point intermédiaire, où il a été en partie élevé par sa tante, puisque souvent les oncles et tantes étaient partie prenante de l'éducation à ce moment-là, lorsque les parents avaient des obligations professionnelles. Or, mes grands-parents avaient leurs obligations. Mon grand-père était assureur à Bastia, et ma grand-mère avait repris les études et était devenue l'une des premières sages-femmes de Corse, avait donc dû partir se former et n'avait pu s'occuper pendant plusieurs années de ses enfants. Ce qui est une période qui l'avait fortement impressionné parce que je pense que ses parents lui manquaient beaucoup.
Elle part parce qu'il faut aller chercher du travail et que ce n'est pas évident. Ça explique aussi le poids que va avoir son frère aussi auprès de lui. Je pense que ça commence là aussi à un moment donné parce que Max, qui est déjà le frère aîné, ça va être quelque chose... Il va vraiment... C'est plus que de l'admiration pour son frère, véritablement. Donc, à un moment donné, cette mère qui s'en va, forcément, la nature ayant horreur du vide, il faut qu'elle soit remplacée rapidement.
Max est plus âgé. Max a des capacités intellectuelles supérieures qui le prédisposent aux études. C'est aussi un garçon qui a eu la polio à l'âge de 10 ans, auquel il manque un bras et que rien ne peut abattre. Qui a un cœur de lion, quoi. qui est donc vraiment une inspiration dans un monde où les gens infirmes sont considérés comme des sous-citoyens. Lui, au contraire, par sa présence, par son charisme, par son travail, il en impose. Mon père rejoint son frère Max et son frère Roland, qui sont tous les deux à Marseille, pour y faire ses études. Et donc il arrive là-bas à l'âge de 17 ans. Ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est que c'est un excellent joueur de foot, qu'il rentre à l'OM, qu'à l'OM, il signe un contrat pro à l'âge de 17 ans, et en même temps, il poursuit ses études. Salud a tutti, mi chiamo Marco Simeoni, sovio di Edmond Delugi a Simeoni. Je suis le fils cadet d'Edmond et de Lucie Simeoni, j'ai 51 ans. Je suis marié, j'ai deux beaux enfants, di un cinquantunani, sono maritato, babbo e mamma e due figli, che cinquantano, e quant à questo sono entrepreneur e professore all'università.
À l'époque, il y avait le clan dit de droite et puis le clan dit de gauche. Les électeurs étaient liés à chacune des deux familles politiques. Alors, ça se passait au niveau d'abord du village, ensuite du canton. Les élections étaient faites en fonction de ce que décidait le chef de clan. Les gens votaient et en retour, ils attendaient de la part du chef de clan, évidemment, un certain nombre d'avantages, que ce soit le travail, pas forcément en Corse d'ailleurs, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais surtout à l'époque dans les colonies, le chef de clan jouait ce rôle-là. C'était le système politique de la Corse qui a perduré assez longuement d'ailleurs, hein, jusqu'à, allez, on peut dire, à la fin des années 60-70. Hein. Mi chiamo Gianbido Albertini, sono giornalista dopo una trentina anni qui a stazione di Via Stella e sono redattore aggiunto a questa redazione di Emocubo di maniera più particolare di Abulidica. Vitus Albertin, je suis rédacteur en chef adjoint à la station de France 3 Corse Via Stella à Ajaccio, où je travaille depuis une trentaine d'années et je m'occupe plus spécifiquement de tout ce qui concerne la politique en Corse.
On était dans un pays sans démocratie. Il y avait une démocratie de façade, mais il n'y avait pas d'application effective du droit, il y avait des fraudes massives et le système clanique aliénait l'ensemble de l'expression électorale. Quand on est dans une famille, par défaut, que vous le souhaitiez ou pas, vous êtes soit parti de Ronde, qui est le parti plutôt droite, de l'aile droite, soit parti d'Ile, qui est le parti plutôt de l'aile gauche. Dans les années 30, 40, 50, jusqu'à une période beaucoup plus récente, peut-être même jusqu'aux années 70 en Corse, on est prisonnier et acteur d'un système social où, grosso modo, on a des clans, des familles très élargies qui se regroupent pour pouvoir avoir accès aux ressources. Et la seule manière de pouvoir vivre ici, survivre, c'est d'avoir accès à la ressource publique. Et si vous n'adhérez pas à l'un de ces clans, et bien vous êtes privé de ressources qui vous permettent de vivre et donc vous êtes quasiment condamné à l'exil.
Donc il va aller en fac à Marseille et puis il va finir par aussi emprunter la voie de la médecine puisque son frère est médecin. Edmond Simeone, ce sera la gastro-entérologie. Puis c'est la rencontre de sa vie, c'est-à-dire que c'est Lucie. Juive polonaise et alsacienne, qui est communiste, alors qui est totalement dans un milieu qu'il ne connaît absolument pas. Mais c'est le coup de cœur et je crois que c'est vraiment... c'était pas une rencontre, c'était une évidence. Je suis donc Anne Chabanon, je suis journaliste à Corse Matin. J'ai suivi depuis le début de leur ascension, celle des nationalistes au pouvoir.
Il avait vu les pratiques politiques depuis petit dans son village. Il les a retrouvées ensuite à Bastia aussi d'une autre manière. Et puis surtout, il a été marqué par le fait que lorsqu'il est parti faire ses études, il a découvert autre chose. Et y compris en plan politique, il a vu que les choses quand même ne se passaient pas de la même manière qu'en Corse. Le système n'était pas verrouillé à ce point-là. Hein. Puis en plus, bon, il a fait la connaissance de son épouse, qui était une militante communiste et qui lui a offert aussi là, d'autres horizons.
D'un côté, ma mère militait aux jeunesses communistes lorsqu'elle était jeune, et mon père issu d'un milieu plutôt conservateur de droite gaulliste. Lorsqu'on a à l'esprit ces deux tendances politiques a priori radicalement opposées, il faut bien comprendre que en fait ils partagent des valeurs qui sont des valeurs profondément communes. Ces valeurs, c'est pour reprendre les termes de mon père, la détestation de l'injustice et des valeurs de partage.
Elle lui a apporté beaucoup d'humour. Ça a vraiment été une rencontre qui l'a poussé, qui l'a sublimé dans certaines de ses choses, et notamment ce bouillonnement d'étudiants où ils vont devenir tous les deux vraiment un couple de militants.
Maintenant, la très vive émotion suscitée en Corse par un certain projet de création d'un centre d'expérimentation nucléaire souterrain près de Calvi. Les journaux en ont parlé et vous devez savoir que des réserves ont été émises par de nombreuses personnalités corses et que l'émotion est grande depuis ce matin dans l'île. La nouvelle, en effet, a été diffusée par tous les journaux dans la matinée.
Alors, lorsque Edmond Simeoni commence ses études de médecine à Marseille, il y a un événement qui se produit et qui va être vraiment un événement déclencheur dans sa prise de conscience, c'est l'Argentella. L'Argentella, donc projet du gouvernement de Michel Debré à l'époque et de Gaulle, de créer un centre d'essais atomiques dans une mine désaffectée à côté de Calvi. Et ça a vraiment été un électrochoc total pour énormément de Corses, quelles que soient leurs opinions. Et du côté de Marseille, chez les étudiants, il y a eu une mobilisation immédiate, extrêmement forte. Et ça a été l'élément déclencheur, où là, c'est la prise de conscience que finalement la Corse, dont on veut à l'époque qu'elle soit pleinement intégrée au sein de la France, est finalement extrêmement maltraitée. C'est une prise de conscience qui n'est pas politique à ce moment-là, qui est plutôt, je dirais, profondément presque viscérale. Qu'on s'attaque à la Corse, à la terre corse, ça a entraîné cette réaction qui n'est pas vraiment pensée à ce moment-là, mais qui va le devenir après.
La situation de la Corse dans les années 60 est proprement catastrophique, puisque après la guerre, il y a eu un départ massif des jeunes Corses pour aller trouver du travail ailleurs. Le territoire avait été absolument abandonné, aussi bien par ses habitants que par la politique qui était menée. Mais du point de vue économique, c'était catastrophique. Aucune industrie, une dépendance totale vis-à-vis de l'extérieur. La Corse était dans une situation de sous-développement chronique à ce moment-là. C'est sans doute à ce moment-là qu'a commencé à émerger le mouvement contestataire.
À la fin de son parcours étudiant, son frère, qui est rentré en Corse, Max, et qui exerce en tant que médecin, commence à s'investir dans une action politique, qui est une action qui dit, grosso modo, pourquoi est-ce que les intérêts de l'île, on ne parle pas ni de peuple corse, ni de ces thèmes-là à l'époque, ne sont jamais pris en compte dans les politiques publiques. Il y a une injustice insupportable. Et que les Corses, collectivement, sont traités comme des citoyens de seconde zone. Et je crois que ça fait écho à une longue histoire de soulèvements en Corse, qui ne partent pas tellement de la volonté absolue de défendre une identité, pour le bien de l'identité elle-même, mais qui partent d'une conscience qu'il y a un traitement inéquitable.
Le retour de Edmond Simeoni en Corse va d'abord se passer au moment des vacances universitaires. Et c'est à ces occasions-là qu'il a la possibilité d'assister d'abord, puis de participer à des réunions organisées par son frère aîné, Max, qui a 5 ans de plus.
Pierre d'Hautelonde, historien.
Qui a créé en 1964 le CEDIC. C'est vraiment là que commence la véritable formation un peu politique d'Edmond Simeoni, parce que le CEDIC, lui, va poser les problèmes en termes politiques, et notamment avec un prisme autour de la notion de communauté corse ou de peuple corse. Et 3 ans après la création du CEDIC, on arrive en 67 avec la création de l'ARC, l'Action Régionaliste Corse, dont évidemment Edmond Simeoni fait partie intégrante.
Ah bon, c'est Grégoire, c'est Grégoire, c'est Grégoire.
Les gens étaient assez d'accord avec le discours qu'ils tenaient sur le constat, puisqu'ils le voyaient eux-mêmes, hein, quelle était la situation, sur les motivations politiques ou sur les perspectives politiques, là, ils étaient beaucoup plus réservés. Et l'Arc ne s'était pas, à l'époque, prononcé pour l'autonomie, hein, loin de là. Hein. Là encore, Edmond Siméon était très prudent, ils avançaient à pas de loup. Hein, ils n'étaient pas. Mais il est vrai aussi que d'un point de vue culturel. Alors, la Corse était très corse, à ce moment-là. La langue corse était parlée par 90% de la population. Ça, c'était un fait. Mais il ne connaissait pas pour autant l'histoire. Max Siméon, il me disait que lorsque les premières manifestations, les premières réunions qu'ils faisaient dans les villages, ils arrivaient avec le drapeau à Vandeir, et des gens ne savaient pas ce que c'était.
Le mouvement régionaliste est à l'origine un mouvement, disons, de type poujadiste. La Corse est en train de s'éveiller au monde moderne dans les années 60, avec toutes les conséquences que ça a sur le plan économique. Ça heurte les intérêts des petits commerçants, des petits artisans, etc. Et le mouvement de l'Arc commence par se présenter comme la défense de ces catégories sociales mises à mal, disons, par l'apparition des grandes surfaces, ceci, les grands magasins, les banques. Un des porte-paroles dans les années 60 de l'Arc, c'est quand même Lucien Alfonsi. Lucien Alfonsi, qui est un orateur fantastique, qui a fait ses classes à la Radio de Vichy, dont on dit aussi qu'il était à Sigmaringen, dans le dernier carré des pétainistes. Donc il y a toutes ces choses qui s'amalgament pour donner naissance à l'Arc. Ange Rovert, agrégé d'histoire, membre du CTHS, et a enseigné toute ma vie dans ma ville natale, Bastia.
L'encre tombe là, hein. Non.
Vif mécontentement en Corse à propos des boues rouges. L'usine italienne de Scarlino déverse toujours des sous-produits de traitement de titane à moins de 50 km du Cap Corse. Ces produits sont très nocifs pour la vie sous-marine. Un spécialiste marseillais, le professeur Pérez, l'a expliqué à Alain Trampoglieri.
Ce sont des boues qui sont terriblement acides, qui renferment des quantités, notamment renferment d'acide sulfurique, qui renferment des quantités considérables de sulfate de fer, et en plus de ça, on les jette en général à la surface. Le résultat, c'est que, d'une part, il y a une toxicité chimique, ces masses de fer et cette acidité sont certainement très nocifs.
Vous le savez, les pêcheurs corses sont mécontents. Ils ont fait ce matin le blocus des ports insulaires. Depuis le 30 avril 1972, la Monte Edison, une société italienne, déverse 3800 tonnes par jour de déchets industriels au large du Cap Corse.
Les boues rouges commencent en 1972 lorsqu'une société italienne qui s'appelait la Monte Edison déversait un certain nombre de déchets toxiques dans le canal de Corse, entre l'Italie, la mer tyrrhénienne, et la Corse. Et les pêcheurs se sont vite aperçus qu'il y avait des poissons qui mouraient, mais en quantité importante.
Les poissons que nous mangeons plus souvent, nous autres, les pêcheurs, ne sera plus mangeable d'ici quelques mois.
Donc ils ont allé voir les scientifiques et puis ils ont demandé ce qui se passait. Ils ont fait les analyses et ils ont vu que c'était les déchets toxiques qui produisaient la mort de ces poissons.
Un peu la mer. Il n'y a que des plastiques, du mazout et le bassin méditerranéen, je crois que c'est un égout. Notre action sera poursuivie jusqu'à que la cause ne soit qu'à cause des pêcheurs soit entendue, ainsi que la population corse.
Donc il y a eu d'abord les pêcheurs qui se sont mobilisés. Et puis ensuite, les associations écologistes, mais visiblement, bon, ça n'avait pas beaucoup de portée. Le mouvement régionaliste commençait à s'implanter. Ils se sont saisis du problème. Ça a pris une certaine ampleur. Il y a eu des manifestations violentes, et en particulier une à Bastia qui a failli très très mal tourner pour le sous-préfet de l'époque. Et ça a créé une agitation très forte pendant plusieurs mois. Hein.
On a participé à toutes les manifestations. Donc l'affaire des Bouts Rouges, l'affaire de la sous-préfecture de Bastia. On est arrivé à ouvrir les grilles à trois. On est passé par derrière, on a ouvert les grilles. Tout le monde s'était engouffré. On ne pouvait plus faire marche arrière. On a été obligé de se battre pendant quatre étages. On a pris les coups de la part des forces de l'ordre. Et on est arrivé au quatrième étage. J'ai demandé moi-même qui était le sous-préfet. Il y en a un qui a dit « c'est moi ». Je l'ai attrapé et on est rentré dans le bureau, on a fermé la porte. Et on l'a présenté à la fenêtre pour dire aux gens « ça y est, on l'a ». Et là, les gens en bas, ils disaient encore « Lampa, Delou, Lampa, ému, il y avait du monde, hein. Lancez-le, lancez-le ». Heureusement qu'il y avait Edmond, sinon on l'aurait jeté, c'était pas un problème, hein. Honnêtement. Hein. Et Edmond, il disait « Mais lâchez-le, lâchez-le !» Et le préfet, il disait « Non, ne me lâchez pas !» Miriam Souzine et Dionpé Souzine, adios et tanta zetane, zona do Marocco, historien Gabigosso, abunta dio Gabigosso. En français, c'est Souzine et Jean-Pierre. J'ai 77 ans et presto per l'indipendenza. Sono mica passato per l'autonomia, régionalisation, sono passato subito per l'indipendenza.
Et puis ça a fini avec le plastiquage du bateau de Scarlino 2 qui était en Italie. Et un commando est allé, a fait sauter le bateau. À partir de là, bon, les Bouts Rouges se sont arrêtés.
Ça a eu pas mal de conséquences dans la formation d'Edmond Siméon. Il se retrouve très en vue. Et donc, du coup, son visage même va devenir extrêmement familier. Son nom va devenir aussi très familier. Alors, à cette occasion, il s'aperçoit de plusieurs choses. C'est que, bon, d'une part, la violence sans doute paye plus, et en tout cas plus rapidement, que le dialogue. Ça, c'est une première chose. Et par ailleurs, c'est le moment où il se rend compte aussi que par-delà les étiquettes, par-delà les milieux, il y a des points de convergence sur l'analyse de la nature du problème corse. Alors, le patron des pêcheurs, lui, il est communiste. Edmond, à travers les Bouts Rouges, apprend aussi à dialoguer avec les premiers écologistes. Ça devient une sorte d'espace de rencontre et de dialogue, et sur une vision de l'humanisme qui va se développer chez lui, c'est vrai que c'est un événement qui est très important. Après l'épisode des Bouts Rouges, les pouvoirs publics commencent à s'inquiéter un peu de la tournure des événements, parce que bon, on ne sait jamais comment ça peut déraper. Ils s'aperçoivent aussi que la mobilisation qui devient autonomiste à partir de 73, parce que ça c'est une des conséquences aussi des Bouts Rouges, prend de l'ampleur au fur et à mesure, auprès de la jeunesse notamment, et auprès de catégories socio-professionnelles de plus en plus larges.
Samedi dernier à Ajaccio, sous l'égide du Centre d'études et d'information Corse, animé par messieurs Paul Ruot et José Rossi, monsieur Liberbou, président du comité interministériel, prenait contact avec de jeunes chefs d'entreprise, des agriculteurs, des fonctionnaires, des syndicalistes, et nous déclarait à l'issue des discussions...
Mais le gouvernement m'a envoyé en Corse en tant que président de la mission interministérielle, mais surtout en tant que délégué au développement économique, c'est-à-dire en qualité d'expert économique, mis à la disposition des Corses, de l'établissement public régional de Corse, de l'administration corse, pour tenter de faire avancer et de résoudre les problèmes que pose le développement économique de l'île.
Pour calmer les choses, on envoie M. Liberbou. Liberbou, grand commis de l'État, entouré d'une légende, la légende qu'il aurait déménagé les Halles de Paris vers Rungis en une nuit. Alors c'est le Messie, quoi. C'est le Messie qui arrive. Et il a comme interlocuteur, ou il choisit comme interlocuteur, Edmond Simeoni. Ça ne donne rien. Reste que Edmond apparaît comme inféodé au pouvoir en place. Et il est de plus en plus pris à partie par ceux qui commencent à avoir une autre vision. Les jeunes Corses qui étaient étudiants dans les fins des années 60, notamment à Nice, qu'il a radicalisé par ses discours enflammés, commencent à dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette trahison avec Liberbou ?» Bien, il lui faut redorer son blason. Et l'affaire du scandale des vins lui va lui permettre, ou pense-t-il, va lui permettre de redorer ce blason. Et il prend donc cette initiative de l'occupation de la cave.
Mes parents m'amenaient donc à certaines réunions, surtout les réunions annuelles qui étaient plus importantes. Donc d'abord à Cateradio, à la Clé des Champs, et puis ensuite à Corté, hein, donc et le congrès de 75, bien sûr, qui a été le prélude à l'affaire d'Aliria.
L'arc peut impulser et conduire la lutte révolutionnaire, populaire, anticolonialiste, de libération. L'arc peut mettre en jeu la propre existence du mouvement. Mais aujourd'hui, l'arc peut faire encore beaucoup plus pour le peuple corse et pour son pays. Y a-t-il un peuple corse? Ce peuple corse a-t-il droit à la vie? La Corse est-elle une colonie? La Corse doit-elle être décolonisée? Faut-il chasser les colons escrocs? Le peuple corse privé de tous ses biens est-il en légitime défense? L'arc doit-il baisser les bras ou doit-il se battre? Pouvons-nous utiliser de façon responsable, réfléchie mais déterminée, tous les moyens qu'implique cette légitime défense? Et question de confiance, question capitale, êtes-vous prêt à assumer la lutte dure, inégale à nos côtés?
Je fais partie des 8000 personnes donc, qui étaient à l'écoute, avec à la fois pas mal d'enthousiasme, mais un brin de crainte quand même. Le discours était puissant, donc quand on dit l'arc est prêt à verser le sang de ses militants, donc sans ostentation aucune, donc voilà, je le prends tel que c'était. On sentait que quelque part la Corse bougeait. C'était pas seulement Edmond, c'était pas seulement le meeting. C'était la Corse qui bougeait. Il y avait quelque chose qui ça allait. Mi chiamo Gian Paolo Boretti, sono autore, compositore, canterino, lo stesso tempo. E j'ai fait mes studi in Italia, donc je suis retourné en Corsica. Je suis un chanteur, auteur, compositeur, mais surtout compositeur. Je suis également chercheur sur les polyphonies médiévales, donc polyphonies anciennes.
Il y avait une ambiance qui était très tendue. Le chapiteau était chauffé à blanc. Une ambiance très 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 forte. Hein, donc chacun avait le sentiment que les choses étaient en train de tourner et qu'il allait se passer des événements graves. Et c'était un tribun, c'était même l'art oratoire à l'état pur, à l'état brut, parce qu'il n'avait pas fait d'école de communication. Ça n'était pas policé, mais il y avait un talent incroyable. Et donc, en fait, moi, les discours d'Edmond, je les ai entendus sans même, à un âge où je ne pouvais même pas les comprendre tout à fait. Hein, mais il y avait la foule était électrisée quand Edmond parlait. Et il l'avait pratiquement dans le sang, quoi. Je veux dire, c'était quelque chose d'incroyable. La façon dont il sentait son auditoire, dont il s'y adaptait au fur et à mesure, l'échange qu'il créait. Ah oui, c'était plus qu'un orateur, à mon avis, c'était le plus brillant de ceux que j'ai connus.
Donc il fait ce discours à Corté où il dit « Êtes-vous prêt à vous faire tuer pour la Corse et tout ça ?» Ah, on attendait ça, on a applaudi et tout, on a répondu oui. Et moi, comme d'autres, j'ai dit, c'est le moment, ça y est, on démarre, quoi. On va atteindre le point de non-retour.
Le point de départ, donc, c'est l'occupation de la cave à l'aube du 21 août. Les choses sont prévues pour se dérouler pendant 4 jours. Et se terminer par un très grand meeting avec la population, etc. Et donc les deux premiers jours, 21 et 22, c'est le temps de mettre en place tout ça, d'organiser tout ça.
C'est la guerre du vin en Corse, et je ne dis pas cela pour user d'une formule. Un commando de 50 hommes a investi ce matin une cave vinicole appartenant à un rapatrié d'Algérie. Cela se passe à Alistro, et cette fois les viticulteurs sont décidés à employer les grands moyens, puisqu'ils sont armés de fusils de chasse, mais aussi de fusils mitrailleurs et de pistolets automatiques. Le personnel de l'entreprise a été évacué de force, et pour l'instant le commando est retranché à l'intérieur de cette cave.
On était 14 à venir sur la cave, on est parti d'Abadia avec le convoi, et on est arrivé sur la cave, on s'est mis en place. Et Jean-Pierre Edmond et moi, les autres sont montés sur la terrasse, nous on a braqué de paille.
Du côté de Paris, on voit des images.
On était treillis avec un fusil mitrailleur sur le calibre à la ceinture. Edmond était en short.
Avec des hommes armés de fusils de chasse.
Mais ils sont partis précipitamment.
On apprend assez rapidement aussi que sur les toiles de la cave, il y a un pistolet mitrailleur qui est installé.
Et on l'attendait.
Nous avons occupé ce matin le domaine de M. Depeille dans une région soumise à une colonisation intensive. Et nous avons occupé ce domaine parce que M. Depeille, avec MM. Cuaz, Siegel, Infantes et Junca, sont au centre d'un scandale viticole et financier sans précédent, portant sur plusieurs milliards et ayant lésé plusieurs centaines de petits propriétaires corses.
Valéry Giscard d'Estaing n'est pas là. Le Premier ministre Jacques Chirac n'est pas là. Reste en poste Michel Poniatowski, donc le ministre de l'Intérieur, qui à ce moment-là est seul aux commandes à Paris. Pendant la première journée, le 21 août, tout le monde est un peu surpris, côté des forces de l'ordre. Et assez rapidement, la décision est prise de mettre un terme à cette occupation. Donc il y a envoi de troupes, la gendarmerie, de véhicules blindés, par bateau.
Ça a changé d'aspect ce matin à Aléria, où les membres de l'ARC et de la FDSEA, armés jusqu'aux dents, occupent toujours une ferme. À 5h30, 6 hélicoptères Puma se sont mis à tourner au-dessus des lieux et tournent sans arrêt depuis cette heure-là.
Et le 22, à l'aube, les occupants de la case sont réveillés par des hélicoptères qui survolent au-dessus. Donc, première tentative d'assaut de la cave. Alors, vraiment, à la surprise totalement générale.
Ils avancent des deux côtés, nom de Dieu ! Edmond !
15h45, l'automitrailleuse sur la route commence à approcher. Les mitrailleurs de l'arc ont regroupé tous leurs fusils. Certains sur le balcon, d'autres sont couchés à plat ventre devant les vignes qui entoure la cave qui est occupée par les manifestants de l'Arc.
Faites stopper là-bas.
Vediamo solo che Luigi, orso Luigi, sono militante corso, per ai vesei a corsi là. Sarocchio Luigi, né le 25-9-1944 a Chiac, militant corso, je dirais corso, depuis 56 ans, hein, Jean-Pierre. Et c'est là qu'on a vu arriver les gaz lacrymogènes. Avant, on n'a pas entendu les coups de feu de ce côté-là, voilà.
Oui,
Ils ont donné la sommation. Ils ont tiré avant nous, et nous on a tiré. Nous on a riposté.
Tout le monde a tiré, tout le monde tirait. Ils ouvrent le feu sur les automitrailleuses, et nous on est derrière, au bout, on n'entend rien du tout.
Les manifestants de Nice commencent à tirer. Je ne les vois mal parce que je suis juste derrière l'automitrailleuse de la gendarmerie, mais Philippe Alfonsi vient de me dire que les manifestants automobilistes enfermés dans la cave commencent à tirer à l'instant même.
Alors moi, j'étais avec Bernard Pantala, j'étais à l'intérieur devant une porte et une fenêtre. Et Pierrot, je ne sais pas pourquoi il ouvre la fenêtre. Je ne sais pas pourquoi il a ouvert la fenêtre. Et là, les grenades rentrées.
Sont penchées sur lui.
Les mecs, oh, si ça bouge, on a une balle dans la gueule.
Alors qu'on me confirme qu'un gendarme est blessé, il est couché dans le fossé.
Moi, j'étais couché par terre, j'avais bloqué la porte, et je vois l'automitrailleuse qui arrivait.
Les emplois maintenant. La mitraillette a été tirée par les manifestants. C'est les militants de l'ARC qui viennent de tirer.
J'ai tiré, mais ils ont tiré avant moi. Quand je me suis levé, j'ai pris à des charges dans le pied.
Oui, très gravement.
Très, très grave.
Il était couché derrière le remblai.
Et là, après, il y a un enchaînement d'événements qui vont déboucher, à un moment donné, sur un véritable assaut qui a lieu dans l'après-midi. Et qui, en fait, va durer très peu de temps parce que on relève, au bout de quelques minutes, deux morts chez les gendarmes et un blessé grave parmi les occupants de la cave.
C'est ma chaussure. Je regarde au pied. J'ai rien senti. J'ai rien senti. Je vois la chaussure par terre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ça ? Je dis, mais c'est ma chaussure.
La fin, véritablement, c'est la reddition d'Edmond Simeoni, contre l'avis d'ailleurs d'une bonne partie de la majorité de ceux qui occupaient la cave à ce moment-là.
Edmond Redou. Edmond Redou. Altiero di Sadera, Zenio Stremose. Stu da volta. Me scosse. Un riso non è ancora e di mondo eri tu e di mondo eri tu.
Conformément à ce qui était décidé, je vais aller me constituer prisonnier. Nos hommes sont partis la tête haute avec leurs armes, avec leurs équipements. La première chose, je pense, c'est qu'il faut s'incliner devant les victimes de part et d'autre. Elles sont les victimes inutiles d'une lutte injuste. Pour notre part, le combat politique commence.
Docteur Simeoni, pour vous, c'est un succès ?
Je pense qu'on n'apprécie jamais ce genre d'affaires quand il s'agit de la vie d'un homme, et surtout qu'on est médecin, en termes de succès ou d'échec. J'ai fait mon devoir, je vais continuer à le faire. Je n'ai pas l'intention de me dérober à mes responsabilités. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, un pas très grave dans l'escalade a été franchi. Et je pense que cette lutte aura l'avantage de cristalliser l'opinion publique sur des scandales que l'on a voulu étouffer.
Aller rire pour nous, c'est un point de repère. C'est une marque dans le temps. Le 22 août 1975, la Corse n'est plus la même. Elle a complètement changé de visage. À partir de là, tout a été conduit d'une toute autre façon. Le mouvement n'était plus dans l'ombre. La France entière savait, l'État le savait mieux que quiconque, et le rapport de force arrivait, ça on le savait.
En condamnant le docteur Simeoni à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, la Cour de sûreté de l'État, aux yeux des Corses tout au moins, n'a pas été aussi indulgente que les autonomistes l'espéraient. Pourtant, la Cour n'a pas retenu de responsabilité contre les accusés dans la mort des deux gendarmes à Aléria. En Corse, c'est la déception. Toutefois, Max Simeoni, le frère du principal accusé, a appelé au calme ses compatriotes. Les réactions, a-t-il dit, doivent être réfléchies et politiques.
La meilleure définition synthétique de mon père consiste à dire qu'il était un militant. Ce n'était pas qu'un homme de conviction, c'était aussi un homme d'action. Il était prêt à tout, ou presque, pour ses idées. Les limites, c'était ne pas mettre en danger sa famille et ne pas prendre la vie d'autres hommes. Il était prêt à mourir, sans ciller. Il était prêt à aller en prison, sans ciller. Maintenant, c'était un homme d'action, y compris lorsqu'il était incarcéré. Et donc, évidemment, il n'avait pas suffisamment de temps dans ses journées pour travailler, pour produire des choses et pour préparer son action à venir et préparer également sa défense.
Edmond Simeoni est libre. Le médecin qui vient de passer 16 mois en prison a réaffirmé cet après-midi la volonté de dialogue de tous les Corses.
Je veux vous dire à vous tous qu'il n'y a pas d'homme providentiel. Que je ne vous mènerai pas à la victoire. La solution du problème, c'est vous qui l'avez, en vous-même. Je veux aussi vous dire que je formule un souhait profond. C'est que les nécessités de la lutte ne nous contraignent pas à des affrontements toujours dommageables. Que nous espérons que le bon sens prévaudra. Que nous espérons que les chefs de clan eux-mêmes entendront la voix profonde du peuple. et je ne formulerai qu'un souhait. Un seul. Et viva Badria. Et viva Bourbon.
La situation est véritablement très tendue en Corse. Donc il y a le mouvement autonomiste qui vient de faire élire. Il y a les organisations clandestines qui agissent de plus en plus. À partir de 1976, c'est le FLNC qui prend la relève et se crée un mouvement anti-autonomiste. Un mouvement clandestin, ce n'est pas un mouvement public, hein. C'est un mouvement clandestin qui s'appelle Francia. C'était des gens qui étaient téléguidés par la préfecture de Corse. Hein. Ils ont fait sauter pas mal de choses, l'imprimerie du journal Arit, et puis ils ont commis un attentat extrêmement grave contre la mère du docteur Edmond Simeoni, à Bastia, où il a failli y avoir des morts. C'est sans doute un miracle qu'il n'y en ait pas eu. Hein. Quand Edmond revient, il crée l'UPC donc en 1977, au congrès de Furiani, et là, il se démarque de façon très claire du FLNC. Le discours est public, et il est sifflé par un tiers du chapiteau. C'est essentiellement des jeunes. Il y a une vraie rupture, là. Le jour où Edmond Simeoni prononce ce discours, la veille, dans la nuit, le FLNC avait dynamité le relais de télévision du Pigne de Bastia.
Lorsque Edmond se dissocie clairement de la lutte armée très tôt, hein, donc ça a été évidemment vécu comme une déception, bien sûr, hein, une déception, parce que les militants qui pratiquaient ou qui soutenaient donc l'usage de la force auraient aimé avoir le soutien d'Edmond. Et lorsqu'il en vient à dire à un moment donné, oui, bon, la non-violence est notre arme absolue, bon sa vie ne témoigne pas hein, de cette conviction. Et puis surtout, bon, aujourd'hui, de réduire Edmond Simeoni à cette phrase, ce serait comme le réduire à la phrase ce qu'il a dit avant Aliria, un révolutionnaire où il gagne ou il meurt. Che Guevara, pourquoi pas? Bon, voilà, moi je ne le réduis ni à une phrase ni à l'autre. Je dis Edmond, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et en même temps, c'est très simple, c'est un patriote corse.
Un attentat au plastique a encore été commis la nuit dernière en Corse. La cible, c'était cette fois-ci la résidence du général Mazaguil, commandant la division militaire de la Corse. La déflagration, assez forte, a brisé toutes les vitres de la maison du général Mazaguil et soufflé plusieurs portes et fenêtres. Le général et sa femme sont sortis toutefois indemnes.
Après l'opération anti-plasticage déclenchée mercredi dans les régions de Sartène et d'Ajaccio, en Corse, 6 personnes ont été interpellées. 4 sont impliquées dans l'attentat contre la Société Générale de Sartène.
C'est un triste record, il y a eu 16 attentats dans l'île.
L'accalmie n'aura donc duré que 2 mois. Cette trêve avait d'ailleurs...
On est vraiment dans un moment où la tension est maximale. Et on est dans un moment où, même si moi évidemment, je ne me rappelle pas, j'étais très petit, cette tension-là nous a accompagnés dans tout notre parcours de vie. Tout le monde fumait 2 paquets par jour à la maison, on dormait pas, on était dans un cadre très 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 peu serein. Et donc moi je me rappelle très très clairement dans mon enfance que tous les soirs, on posait par terre des sacs de sable et on les poussait contre la porte. Voilà, c'est l'ambiance dans laquelle nous avons été élevés.
1982, c'est un événement politique important. Le fait que les autonomistes non seulement rentrent en force à l'Assemblée de Corse, c'est élu quand même avec 14 000 voix, mais aussi par le fait que c'est la première fois qu'ils se présentent aux élections en tant que mouvement structuré.
En 82, il est élu à l'Assemblée de Corse avec un groupe de 7 élus, qui est très conséquent à l'époque. Et en 84, il a un infarctus massif qui a failli l'emporter. Et il est donc éloigné de gré ou de force, on dit en Corse « per forza opera mor », du terrain politique. Ensuite, donc mon père réalise son mea culpa public.
Celui qui, en août 1975, avait été impliqué dans la fusillade d'Aléria, une fusillade au cours de laquelle 2 gendarmes et un autonomiste avaient été tués. Devant 1500 personnes venues l'écouter à Bastia, Edmond Simeoni a fait son acte de contrition pour condamner la violence inutile qui n'aboutit
pas. Ça a surpris tout le monde, y compris son propre Fermax, qui n'a pas du tout apprécié les déclarations. Edmond, des fois, avait un côté comme ça, des impulsions, et il avait décidé de faire cette déclaration en pensant que l'ensemble de la classe politique allait faire, elle aussi, son acte de contrition. Ça n'a pas été le cas, bien évidemment.
Fréquemment, les gens de bonne foi m'attribuent une large part de responsabilité dans la situation actuelle de la Corse. J'accepte le reproche. En effet, il y a bientôt 20 ans, je n'aurais pas dû, avec mes camarades, occuper des bâtiments publics, barrer des routes, m'insurger, m'affronter 50 fois et plus avec les forces de l'ordre. Je n'aurais pas dû occuper la cave d'Alire en 75 où sont morts deux hommes jeunes et où un autre, un de mes amis, un de mes frères, a été gravement blessé. À cette contrition publique...
J'en ai parlé après, je lui ai dit, mais bon, tu sais, se repentir, je pense qu'il n'est pas nécessaire. Et il me dit, oui, mais tu sais, moi, on me dit que c'est à cause de moi que tout a commencé. Voilà. Et j'ai vu qu'il était sincèrement contrarié par ça. Voilà, ça je l'ai vu, mais ça, là je témoigne de ce qu'il m'a dit, hein, Edmond. Voilà.
So, un militante indipendentista gursu, sono stato eletto all'Assemblea di Gursiga durante vari anni e anche presidente dell'Assemblea di Gursiga, sono avvocato e oggi sono di noi universitario. Mi chiamo Jean-Guy Talamogne, quindi sono un militante indipendentista. J'ai été élu à l'Assemblée de Corse pendant plusieurs années, 30 ans en fait. J'ai été président de l'Assemblée. Je suis avocat de profession.
Il y a des élections qui sont organisées en 1992 dans le cadre du statut Jox. La frange radicale réunit toutes les composantes et va voir Edmond Simeone pour qu'il soit le tête de liste. Bon, lui, il met des conditions, mais il vient.
Edmond Simeone désapprouvait l'usage de la lutte armée, mais en même temps... En même temps, il passait des accords politiques avec notre mouvement qui soutenait la lutte armée. Mais c'était pas Janus. Et je pense qu'il était déchiré entre sa révolte contre la situation faite à la Corse, sa sympathie pour les Corses qui luttaient et qui prenaient tous les risques et qui allaient en prison, qui mouraient parfois. Et puis d'un autre côté, il y avait cette idée selon laquelle il était responsable de tout, et ça le gênait. Moi, nous en avions parlé.
Edmond Simeone est un homme, je le disais, qui est profondément pacifique. Sa nature profonde, c'est celle-là. La violence, il l'a connue dans sa vie lorsqu'il était militaire en Algérie, c'est pas sa nature. Mais les circonstances politiques ont fait qu'il a toujours été obligé de faire des choix. Et c'est des choses qu'il n'aimait pas trop. Surtout que c'était des choix qui étaient souvent assez clairs, quoi. C'est été par rapport à la violence. Il la refusait, mais il a été obligé de la pratiquer le jour d'Alire, ou que ce soit dans les objectifs politiques. Il a toujours été extrêmement hésitant. Donc, vous voyez, c'est toujours du côté un peu ambivalent d'Edmond Simeone. Et ça lui a d'ailleurs été souvent reproché. Hein.
Il y avait une euphorie pendant cette campagne de 1992. Nous savions que nous allions faire une très belle élection. Et nous avions l'espoir de nous introduire dans les institutions à ce moment-là. Ça n'a pas été le cas. Et à ce moment-là, Edmond, pour nous, c'était notre président de la République de Corse, en quelque sorte, potentiellement.
La dernière ligne droite de la campagne, hier à Ajaccio, a eu lieu une réunion publique de Corsica Nazione en présence d'un très nombreux public. Les leaders des différentes composantes de Corsica Nazione sont intervenus sous chapiteau.
Nous ne voulons pas être l'avant-garde éclairée du peuple. Vous n'avez pas besoin de leader, vous n'avez pas besoin de chef, vous avez besoin, vous et vos enfants, de devenir des citoyens alors qu'on avait voulu faire de vous des sujets. Voilà l'enjeu de ce combat.
Donc évidemment, une liste avec un leader comme Edmond Simeone qui revient sur la scène politique, ça a donné une autre ampleur. Et Corsica Nazione fait un score extrêmement important. C'est la deuxième force politique de Corse. Il arrive quelques milliers de voix derrière la droite. Il a dans l'idée de faire évoluer le mouvement radical vers des positions beaucoup plus souples. Ce qui n'était pas impossible d'ailleurs, hein, à partir du moment où il pesait de façon importante sur l'électorat. Il y reste jusqu'en 93 ou 94. Voilà. À ce moment-là, se déclarent les premiers affrontements entre nationalistes. Et à ce moment-là, la fracture commence à s'élargir. Et Edmond Simeone, il prend de plus en plus ses distances avec la frange radicale. La frange radicale elle-même éclate et Edmond Simeone finit par démissionner.
Je
vais répondre à votre question. Quand j'ai quitté Corsicana-Nazione, c'est tout simplement parce que je n'étais pas en mesure de remplir les engagements qui avaient été pris vis-à-vis de 22 000 personnes. Et tout simplement aussi, je l'ai dit et écrit, et je le maintiens, c'est parce que la présence du FLNC à l'historique était trop pesante sur notre organisation, et je considérais que je n'avais pas ni la marge de manœuvre, ni la capacité d'assumer des choses que je n'ai pas voulu assumer, comme la mort de Robertson.
Est-ce qu'il a été naïf dans sa pratique politique ? Je pense que oui, tout à fait. Il a été parfois naïf dans les pactes politiques qu'il a scellés, mais je ne crois pas que l'on puisse vouloir changer profondément une société aussi aliénée que la société corse sans une dose déraisonnable d'optimisme.
« 21h15 hier soir, Claude Erignac, préfet de la région Corse, est assassiné en pleine rue à Ajaccio. Un crime spectaculaire, exceptionnel. C'est la plus grave atteinte à l'autorité de l'État jamais commise dans l'île. Cet assassinat n'est toujours pas revendiqué. Antoine Ganac nous appelle d'Ajaccio. »
Les tueurs postés en embuscade n'ont laissé aucune chance au préfet de région. Ils ont attendu que Claude Erignac sorte du...
Le 6 février 1998, Claude Erignac, le préfet de Corse et de la Corse du Sud, puisque les deux sont toujours liés ici, est assassiné à l'entrée de la ville par un commando d'hommes dans le dos, par... je crois que c'est 3 balles dans la nuque. Il allait à une soirée, à un concert... Il avait déposé son épouse. Il n'y avait pas de place, donc il est allé se garer. Et quand il a trouvé une place, il s'est garé, il est redescendu à pied, c'est il y a quelques mètres, et on l'attendait à ce moment-là. Il est tard, puisque c'est un concert, il est déjà... C'est en février, il fait nuit noire. Et... C'est compliqué même encore maintenant à évoquer parce que c'est le représentant de l'État en Corse, c'est jamais arrivé, on n'y croit pas d'abord, il y a une vraie stupéfaction, une vraie terreur à ce moment-là dans la population parce que je ne crois pas que les Corses aient jamais voulu ça, je ne crois pas que ça leur ressemble en plus. Je vois pas comment Edmond Siméon pouvait ne pas condamner l'assassinat du préfet Erignac.
Vient ensuite l'arrestation du commando. Mais Yvan Colonne n'est pas arrêté. Il est arrêté des années plus tard. Son implication dans l'assassinat du préfet n'était pas prouvée. Au départ, en tout cas. Après, il y a eu les décisions de justice, mais c'était pas prouvé du tout. Il y a eu un comité de soutien assez vite, puisque lui s'est enfui, qui s'est mis en place, et Edmond Siméon a choisi de soutenir Yvan Colonne.
D'un côté comme de l'autre, il fallait condamner l'assassinat, mais il fallait pas non plus, de l'autre côté, condamner avant l'heure quelqu'un qui n'avait pas encore été jugé, quelqu'un qui était corse, qui était un berger, il y avait tout un tas de voilà.
Je suis persuadé que les gens qui persiste dans la violence, il en faut très très peu pour qu'ils l'abandonnent définitivement. Le problème, c'est qu'ils ont pris une voie, je pense qu'elle n'est pas bonne, je le dis. Mais je ne suis pas solidaire de l'État qui les réprime.
Après, ça, c'est l'âme corse. Et c'est ce genre de choses qu'on ne comprend pas toujours. À la fois, on peut prôner quelque chose qui est une condamnation et puis pas condamner les siens pour autant. C'est paradoxe chez Edmond Siméon. En fait, c'est consubstantiel du personnage et c'est quelque chose qui le compose vraiment.
En 2004, Edmond Siméon, il revient à l'Assemblée de Corse. Il est élu à la tête d'une liste d'union des nationalistes et il n'y a pas de majorité. La droite arrive en tête, mais elle est seule incapable de construire une majorité quelconque. Le jour du vote du président de l'exécutif, la liste qu'il dirige, la liste d'Union nationaliste, porte ses voix sur Camille de Rocazères, qui était principal dirigeant de droite à l'époque, député et maire de Porto Vecchio. Celui-ci refuse les voix. disons qu'il ne peut pas accepter les voix qui contestent la présence de la France, bon, enfin le discours habituel. Et donc c'est là qu'Edmond Siméon y prend la parole et fait un discours qui restera dans les mémoires des années plus tard, à tel point qu'Amis de Rocazer, bien des années plus tard, avait émis des regrets en disant peut-être que le jour où Edmond Siméon est mort, je me rappelle ce moment-là, je n'aurais peut-être pas dû refuser la main tendue qu'il nous avait donnée.
Alors, on entend dire que on ne veut pas voter avec nous. Dites-moi, pourquoi ? Nous sommes des émules de Le Pen, nous sommes des gens infréquentables, nous sommes des voyous, nous sommes des gens qui ne respectons pas les règles, en général. Nous sommes des gens critiquables sur le plan de la morale publique ou privée. Qui ? Lâchez les occhiares. Soldi non abbiamo mica, avantaggi consommi mica. Nous voulons dépasser les querelles, nous voulons passer les drapeaux, nous voulons dépasser les exigences étriquées de nos appareils partisans pour véritablement souscrire à un projet collectif. Nous tendons la main, et quand nous vous tendons la main, vous nous tournez le dos.
En 2014, le FLNC, effectivement, donc le Front de Libération Nationale de la Corse, dépose les armes, et c'est un acte et une date fondamentale. Parce que c'est à partir de ce moment-là que finalement les nationalistes vont pouvoir accéder au pouvoir. En décembre 2015, Gilles Siméon, avec une coalition de nationalistes, donc les autonomistes et les indépendantistes représentés par Jean-Guy Talamogne, prennent le pouvoir et accèdent à l'élection suprême ici, c'est-à-dire l'élection territoriale.
La manière dont mon père a vécu l'arrivée au pouvoir de mon frère Gilles doit être vue à l'aune de ce qui était un petit peu son mantra. L'expression poétique la plus synthétique et la plus pure de sa manière de voir le monde, c'était « à l'autre et sempre à l'autre ». La lutte et toujours la lutte. Donc, mon père voyait l'accession aux responsabilités du mouvement nationaliste comme un moment historique fort, comme un jalon dans un processus, mais certainement pas comme une garantie pour notre peuple. Il savait que ce n'était qu'une étape. Dans le secret de son cœur, je crois qu'il était profondément joyeux. Je crois qu'il était profondément fier de ce qu'a pu accomplir mon frère. Et je crois qu'il ne l'a jamais dit, parce que c'était un homme issu d'un monde d'humilité. Ça me fait toujours penser à ce merveilleux proverbe yiddish qui nous dit que l'humilité était un demi-orgueil. Et donc je crois que ça s'applique parfaitement à mon père qui adorait être humble.
Il était pressé. C'était un homme pressé jusqu'à la fin. Il a été pressé. Il était pressé d'écrire, il était pressé d'échanger avec les autres.
C'est un personnage historique. Je pense que c'est cela. C'est l'homme d'aller, c'est l'homme qui, à un moment donné, a voulu répondre à l'injustice en utilisant la force.
Il fallait faire quelque chose, on ne pouvait pas ne pas bouger. On a guère le choix, ou bien faire des folies, ou bien passer pour fou. Donc il fallait quelque part mettre le pied sur l'accélérateur, mais en essayant d'être le plus sage possible.
Je vous dis, malgré tout son parcours, qui a été parfois fait de violence, mais c'était un humaniste. Il a toujours placé ça au centre du jeu. Et c'était pas surjoué.
C'était Edmond Siméoni, militant permanent. Un documentaire d'Antoine Guériment, réalisé par Félix Lebacher. Prise de son, Benjamin Troncin, Alison Ascrisi, Clara Galivelle, François Saint-Jour. Mixage, Éric Boisset. Merci à Anne Chabanon, Jean-Paul Poletti, Jean-Vitus Albertini, Louis Sarocchi, Jean-Pierre Souzini, Jean-Guy Talamoni, Ange Rovert, Pierre Dautelonde, Marc Siméoni et Piero Souzini. Archivina, Emmanuel Luccioni, Nathalie Christ. Documentation musicale, Antoine Villoz. Chargé de programme, Sandrine Chaperon. Coordination, Emmanuel Laurentin.